des murmures dans les oreilles, des invités en tout genre.
Radio Pratique,
c'est l'heure de Radio Pratique.
Des créations sonores, des philosophes, des artistes.
Écoutez le vent.
Attention, ça va être à vous.
Je vais dire tu.
Sentir le vent.
Des poétesses de la scène.
Des circassiennes, des techniciens.
Saison 2021.
Tous qui discutent autour d'une table.
Écoutez le vent passer sous la peau.
Pourquoi est-ce qu'on s'échine à travailler la matière? Parce que l'âme, elle a besoin de s'incorporer quelque part.
Radio.
Pratique.
Considérer ses pensées comme des nuages.
En direct et en public.
Depuis le foyer du TJP Grande Seine.
Voilà. Bienvenue. Bonjour et bienvenue au plateau de Radio Pratique pour cette première émission de l'année 2021. Nous sommes le 7 janvier, il est 18h30 et nous sommes en direct mais sans public depuis le foyer du TJP Grande Seine. Le TJP accueille depuis lundi l'artiste Ingvild Aspeli et la compagnie Plexus Polaire qui devaient présenter aujourd'hui et demain leur nouvelle création Moby Dick. Malheureusement, l'évolution de la situation sanitaire ne nous permet pas de vous accueillir, spectateurs et spectatrices. Nous avions prévu une rencontre entre vous et les artistes à l'issue du spectacle. En lieu et place, Radio Pratique et l'équipe du TJP vous proposent d'écouter la metteur en scène norvégienne Ingvild Aspeli et Renaud Herbin, directeur du TJP. Tous deux marionnettistes, ils échangent sur le travail de création d'Ingvild Aspeli et de son équipe. De l'aventure Moby Dick en ces circonstances bien spéciales, qu'ils poursuivent cette semaine à Strasbourg, malgré la houle tempétueuse. Une conversation enregistrée mercredi 6 décembre 2021 matin.
Ouais, on est prêts en bas.
Ouais.
Ok.
Tom, t'as pas touché.
Alors, je vous donne le top ou quoi?
Allez, vas-y.
Ouais. Top.
Alors Ingvild, bonjour.
Bonjour.
Tu es là à Strasbourg avec toute ton équipe. Malheureusement, tu ne pourras pas jouer et rencontrer le public. Tu ne pourras pas même faire ta première parce que c'est un spectacle qui n'arrête pas de reporter sa date de création, sa date de première. devait avoir lieu cet été, enfin l'été dernier à Avignon, et puis puis à la semaine d'Avignon, enfin la semaine des arts qui remplaçait le festival d'Avignon à la Toussaint. Et là, malheureusement, tu n'as pas pu non plus jouer. Tu nous raconteras tout ça. Et là, aujourd'hui, tu devais faire la première à Strasbourg. Malheureusement, ce n'est pas possible pour les raisons qu'on connaît tous. On est quand même très heureux de t'accueillir au TJP, que tu puisses venir continuer à travailler et à peaufiner cette création. Et voilà, ce petit temps, c'est l'occasion, l'opportunité de quand même faire connaissance avec toi et puis de partager cette actualité qui est quand même pour toi très brûlante. Voilà. Donc peut-être tu peux nous rappeler le chemin qui t'amène jusqu'ici, c'est-à-dire tu es marionnettiste et tu as été formé à Charleville. Tu as fait des spectacles avec des marionnettes. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot ?
Oui, j'ai fait des spectacles avec les marionnettes. Oui, je suis norvégienne. Je suis venue en France il y a maintenant 17 ans. J'ai fait des études à l'école Jacques Lecoq à Paris. Et ensuite, du coup, j'ai enchaîné avec ESNAM à Charleville-Mézières. Et je pense que c'est vraiment même dans mon travail aussi, c'est la rencontre entre l'acteur et la marionnette qui est vraiment au centre de ma recherche ou de cet espace entre les deux niveaux de présence ou de niveau de jeu. Qu'est-ce qui peut se passer entre ces deux dimensions qui m'intéresse le plus et qui est devenu une sorte d'obsession que je continue à chercher ou développer dans de différentes manières dans tous mes spectacles. Il y a quand même, souvent, je travaille avec des marionnettes taille humaine, même s'il y a aussi des plus grands, des plus petits, mais qu'il y a quelque chose du corps à corps entre l'acteur et la marionnette qui me passionne énormément.
C'est une question de présence aussi, puisque c'est quand même des statuts de présence qui s'entremêlent et que tu arrives toujours dans tes propositions à mettre au service d'un propos, d'une narration ou d'un rapport très intime finalement à qu'est-ce qu'on est sur le plateau et dans cette relation au public.
Je pense que la marionnette et l'utilisation de marionnette a un potentiel très fort de pouvoir raconter des choses dans une manière physique ou directe, où il y a toutes ces choses de la vie qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais qu'on peut quand même comprendre. Et qu'en utilisant la marionnette ou cette relation entre la marionnette et l'acteur, dans une manière précise, ça peut permettre de rendre ces choses invisibles visibles. Et du coup, il ne s'agit pas forcément de... moi, je suis plus intéressée de poser les questions, ouvrir des questions, que de donner des réponses, mais de pouvoir ouvrir à une sorte de... à un espace où on peut rentrer dans les questionnements ou les problématiques qui nos travails ou qu'on vit.
Et justement, ce qu'on vit en ce moment, là, de cette, Est-ce que tu vis, toi, dans ton travail, là, concrètement, d'avoir ce processus de création qui n'en finit pas de se rallonger, puisque finalement, chaque fois que tu devais proposer, rencontrer le public, ben, ça s'annule. Donc, c'est aussi des occasions, parfois, de pouvoir continuer à chercher, à travailler, à peaufiner l'objet. Comment tu le vis, toi, et comment l'équipe aussi le vit au sein de la création mobilique?
C'est clair que ça n'a pas été un temps facile. Il y a beaucoup de hauts et de bas, des grandes émotions, je pense que le plus fatigant, c'est quand même l'inconnu. Toujours être prêt et finalement pas le faire, ou de tout faire pour être prêt, mais finalement pas le faire. Il y a une sorte de processus sans fin qui est très fatigant mentalement. Après, je pense que me considère très chanceux de pouvoir quand même, malgré tout, au milieu de tout ça, contre toutes les impossibilités, improbabilités et bousculades que cette année nous a amenées dans toutes sortes de manières, qu'on a quand même créé un spectacle. Et c'est lié à beaucoup de travail et investissement de toute l'équipe, de toute manière, mais aussi d'une sorte de miracle. Parce que c'est tellement un spectacle aussi pas COVID-friendly, mm-hmm. pas du tout lié, pas du tout adapté au corona, parce que c'est une équipe avec beaucoup, beaucoup de nombres. Ils sont 16 en tournée, avec qui vient de plein de différents pays en Europe. C'est vraiment plein, plein de différentes choses qui fait que c'est extrêmement compliqué de pouvoir le faire. Et malgré tout ça, et là, c'est vraiment l'équipe a été très fort et là et présent et a fait des tests, des quarantaines et des longs temps loin de leur famille, tout pour pouvoir aller jusqu'au bout de notre projet. Et du coup, il y a quand même un spectacle, même si un spectacle est seulement vraiment prêt quand il a rencontré le public et quand il a joué, quand il a pu avoir sa vraie vie, mais on a quand même un objet qui est très prêt bientôt à rencontrer le public. Du coup, je trouve malgré tout, au milieu de ça, qu'on a eu la chance. Et du coup, je pense aussi beaucoup lié à l'équipe qui a vraiment été là et qui est prêt à faire tout ce qu'il faut faire au milieu de tout ce temps pour pouvoir continuer à travailler, mais aussi de tous les partenaires. Je trouve au milieu de tout ça qu'on a été bien entourés et bien soutenus, comme par exemple ici, de pouvoir venir, même si on ne va pas pouvoir jouer. Et ce temps de travail est très précieux pour nous, parce que du coup, tout a été décalé et les temps qui étaient prévus, on ne les a plus. Et du coup, de pouvoir venir ici, avoir les conditions pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire ce qu'on aurait dû faire, c'est vraiment très, très précieux. Une fois pour le travail, pour pouvoir finir le spectacle, mais je pense aussi pour le moral et le cœur, de pouvoir sentir que malgré tout, on avance quand même. Et OK, ce n'est pas comme on avait prévu, mais on cherche d'autres solutions, d'autres manières. Et on arrive quand même à avancer, même si ce n'est pas du tout d'un pas tout droit.
Thank you.
du coup, c'est un peu contre vents et marées de ce que tu décris là. Et ça rejoint un peu peut-être quand même la thématique de Moby Dick, qui est quand même au milieu des flots et des vagues déferlantes. Est-ce que pour toi, il y a quand même dans ce projet, tu le dis, qui rassemble beaucoup de monde sur le plateau, qui aussi développe tout un imaginaire de marionnettes, de formes comme ça, qui est très spectaculaire, qui est dans une grande échelle, disons. Il y a une forme de presque de démesure dans cette proposition. Est-ce que tu fais le lien entre cette situation et la démesure des hommes et des virus?
Je pense que oui, quelque part, il y a eu plein de moments où, étrangement, la situation et le projet même se lient. Je pense aussi que, sûrement, à fur et à mesure de tout ce temps, il y a des choses aussi qui est devenu plus évident et que, quelque part, évidemment, de amener toute cette équipe au milieu de tout ce temps, je suis un petit peu leur capitaine fou. C'est sûr, je pense qu'on ne peut pas le nier. J'espère quand même que, contrairement au capitaine Ahab, je ne les amène pas tout droit dans la destruction et qu'on est plus dans le côté de ceux qui sortent de cet orage avec une autre perspective. Mais c'est clair qu'il y a des choses, oui, qui se lient dans une manière étrange. Après, je pense aussi que c'est un roman qui est immense. C'est un roman qui, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu maintenant, mais à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas lu avant, ou des connexions que je ne connaissais pas. Du coup, je pense aussi que c'est un roman que si on essaie de le mettre en scène, moi, évidemment, ce qui m'intéresse quand je fais aussi un spectacle, c'est pas exactement faire une adaptation directe, mais c'est plutôt de vraiment plonger dans le cœur du sujet pour pouvoir pour aller dans les thématiques qui sont sous-jacentes du coup, et aussi de pouvoir transformer des différents éléments dans ma langage ou dans mon langage, on dit, ou de comment le rendre une expérience physique ou qui est seulement ce que la scène peut faire. Du coup, je pense que si on fait aussi ce roman, il a ce chose démesurée, il a ce côté fou qui est aussi un des thématiques centrales qui m'intéresse aussi beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'évidemment, si on rentre dans cette thématique, on ouvre aussi à la folie qui existe dans nous tous, dans toutes différentes manières. Et je pense quand même que cette situation nous met tous un peu face à nos propres peurs, ou face à nos propres angoisses, ou face à nos propres folies, dans une manière ou une autre. Et après, c'est une question, comment est-ce qu'on le gère, ou comment est-ce qu'on le laisse prendre le contrôle de nous, ou pas. Mais on a quand même tous une petite grain de folie quelque part, non? Dans une manière ou une autre. Et je pense que c'est une situation comme celle qu'on vit maintenant, une crise sanitaire, soulève aussi ces choses-là. Du coup, oui, c'est devenu un peu plus vrai que prévu, mais ça parle aussi de ça. Et c'est aussi toutes les choses humaines sont complexes, ils ne sont pas toujours que forts et beaux. On est aussi toutes les choses un peu plus brouillées en dessous. Et que ça, c'est fait partie. Et si on ne voit pas les sombres avec le clair, Melville, il parle beaucoup de ça aussi, de comment la terre, elle nous... le soleil, elle ne cache pas les côtés sombres de la terre, qui est du coup la mer et qui est deux tiers de son surface entière. Elle ne le cache pas. Et qu'il utilise beaucoup cette analogie avec l'âme humaine ou l'être humain, qu'un être humain n'est pas vrai s'il n'a pas aussi les côtés sombres, et qu'il va falloir, pour être entière, il faut accepter qu'il y a les deux. Et que peut-être que... Et que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les choses verdoyantes. Lui, il parle beaucoup de couleur terre, ou tout ce qui est plus vivant. Hein. Mm-hmm. Du coup, il y a quelque chose de ça qui, quand même, la situation amène plus proche aussi de thématiques que ça, même si la thématique était déjà là.
Will rise again, but only to spout his last.
À décrire d'une adaptation, c'est-à-dire qu'effectivement c'est impossible de transposer à l'identique. Enfin, voilà, donc tu fais bien des choix, tu arrives à traduire en fait. Comment s'opère ce processus-là de traduction finalement d'une œuvre dans cette complexité avec les outils qui sont les tiens, des acteurs, des marionnettes, du son
Du coup, il y a une. C'est quelque part un processus à la fois très intuitif et à la fois assez sélectif, où j'ai fait une grande sélection. J'ai réduit le roman de 700 pages à 100 pages, du coup, pour vraiment choisir quels sont les éléments qui m'intéressent le plus. Mm-hmm. Ensuite, il y a des parties qui restent vraiment textuelles, où on garde les dialogues ou le monologue. D'autres parties qui sont traduites plus en scène plus visuelle en utilisant les marionnettes, ou d'autres choses qui deviennent vraiment musicales, qui prend en charge une partie de la narration aussi, d'autres qui sont plus pris en charge par la vidéo ou l'espace, les lumières. Du coup, c'est quelque part plus comment tout ensemble devient une histoire, que ce n'est pas chaque élément en soi, c'est vraiment la jonction entre tous les différents éléments qui ensemble nous racontent une histoire, et qui nous racontent peut-être une histoire dans une, pas dans une manière forcément linéaire, mais qui nous racontent une histoire où tout notre corps est actif dans une manière ou une autre. Et après, il y a aussi le... Oui, en résumé.
Oui, oui. Non, mais c'est intéressant, effectivement, parce que c'est audacieux de s'attaquer à une œuvre aussi monumentale et d'arriver à en tirer comme ça, finalement, une lecture singulière. Et ce qui nous importe, ce n'est pas le Moby Dick authentique, c'est le tien, en fait. C'est celui que tu vas aussi... tu prends un point de vue, tu adoptes un angle d'attaque et tu choisis des éléments, tu les mets en scène et tu les traduis là en sensations, en éléments visuels et sonores. Et ça, c'est extrêmement... c'est la force aussi de ton travail, que tu avais déjà... Un travail d'écriture, finalement, de réécriture, mais d'écriture que tu avais déjà fait dans Chambre Noire, par exemple, qu'on a pu voir sur ce plateau il y a quelques temps.
Je pense aussi que... Moby Dick est tellement plus qu'une histoire d'aventure. Il est surtout connu pour être une histoire d'aventure parce que souvent, dans les adaptations, c'est ce qui est retiré. Et pour moi, c'est surtout toutes les autres choses qui m'intéressent, tout ce qui est en dessous ou autour de cette histoire d'aventure. Mais lui, il utilise vraiment cette histoire d'aventure pour nous raconter quelque chose autre, quelque chose qui est vraiment lié à qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire d'être humain. Et du coup, par sa narration, par amener de passer par les choses concrètes, physiques, il arrive vraiment à rendre accessibles les questionnements existentiels très complexes. Et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve intéressant et important. Comment quand même rendre accessibles des questionnements qui nous traversent tous dans une manière ou une autre.
Et c'est là où la marionnette a aussi cette force de pouvoir accéder, de nous faire accéder à ces espaces existentiels ou en tout cas de réflexion profonde sur le fait d'exister tout simplement. Cette jonction-là, ce que tu dis est assez évident de cette rencontre entre une œuvre qui se pose la question de l'existence avec la marionnette elle-même et cette relation entre le vivant et une chose qui n'est pas complètement vivante sur un plateau et qu'on anime. Merci beaucoup, Ingvild, de cette conversation. On est impatients, du coup, de découvrir cette pièce, comme tout le monde. On saura patienter encore, et on vous souhaite vraiment de pouvoir profiter, quand même, malgré tout, de cet espace et de ce temps pour peaufiner cette création et qu'on espère pouvoir découvrir un jour.
Oui, nous aussi. Merci beaucoup.
Nous arrivons au terme de cette brève émission. D'ici quelques jours, vous pourrez réécouter cette émission sur le site internet Corps Objet Image et découvrir également une création sonore en lien avec l'univers de Moby Dick, réalisée ces jours-ci par moi-même, Thomas Lasbouig. Tous les podcasts de Radio Pratique sont par ailleurs à découvrir sur le site Quoi, Corps Objet Image, Entretien, Plateau Radio, Création Sonore et plein de surprises. Ces podcasts sont ainsi accessibles sur la plateforme R22 Tout Monde, la web radio des arts et du commun, qui fédère de nombreuses antennes radio en France, et où Radio Pratique vient tout récemment d'ouvrir la sienne. Merci à Moby Dick, Herman Melville, Ingvild Aspeli, la compagnie Plexus Polaire, avec les musiques du spectacle Avdip, Orar Old Whale et Hunt, des compositrices Guro Skumsnes Mu, Anne-Marthe Sorlien Hollen, Havard Skasset. Merci à Renaud Herbin, l'équipe du TJP et Radio Pratique qui ont préparé cette émission. Merci pour votre fidélité et votre écoute. Malgré la fermeture du théâtre, Radio Pratique est sur le pont et continue à suivre une vie artistique qui se passe à huis clos. La semaine prochaine, vendredi 15 janvier, écoutez en direct sur le site internet du TJP www.tjp-strasbourg.com la rencontre entre l'artiste Damien Bouvet et l'anthropologue David Le Breton. Un rendez-vous modéré par Thomas Flagel. À très bientôt sur les ondes.